Le climat est un bien commun de tous et pour tous, a dit le souverain pontife pour impulser les leaders du monde réunis dans la capitale française depuis lundi à prendre des mesures en vue de préserver ce bien commun défini par le pape François qu'est le climat.
En este contexte international donde se plantea la disyuntiva,
le président américain Barack Obama,
if we let the world keep warming as fast as it is,
et l'hôte de la conférence, le président François Hollande,
je vous annonce aujourd'hui que la France y consacrera 6 milliards d'euros entre 2016 et 2020.
L'Afrique est aussi au rendez-vous à l'image de Mamadou Issoufou, président du Niger.
Les effets du changement climatique se traduisent non seulement par l'augmentation des températures extrêmes, mais aussi par des périodes de sécheresse, suivies de périodes d'inondations.
Il y a 9 ans, la conférence de Copenhague n'était pas juridiquement contraignante, mais que peut-on attendre de Paris ? On aura un analyste dans le domaine pour nous éclairer. Le mois de décembre, précisément le 1er, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. Ce combat évolue en dents de scie en Afrique, mais la détermination est de mise, comme on va le voir dans un instant. Ne quittez pas, chères auditrices et auditeurs, Carrefour Science et Santé d'aujourd'hui vous réserve une histoire émouvante. C'est ce bébé miraculeux d'Ouagadougou, sauvé in extremis après que sa maman enceinte ait reçu une balle perdue qui a atteint l'utérus. Bienvenue à l'écoute, Eric Manirakiza est heureux de vous retrouver, vous dit bonsoir l'Afrique. Vous écoutez Carrefour Science et Santé sur VOA Afrique. Voyageons ensemble sur Paris. Le monde se mobilise face au réchauffement climatique. Paris, la ville des Lumières et capitale mondiale de la gastronomie, c'est le lieu choisi pour prendre des mesures fortes contre la destruction permanente de la planète. Lundi, 150 chefs d'État ont participé à l'ouverture de cette conférence, histoire de manifester leur volonté et engagement pour parer au plus pressé. La menace du réchauffement climatique contre le bien-être de l'homme et de son environnement est réelle. Même le pape François est mobilisé. À la veille du sommet sur le climat à Paris, il a donné le ton depuis le siège du programme des Nations Unies pour l'environnement à Nairobi pendant sa visite pastorale. Lionel Gahima.
Au siège des Nations Unies à Nairobi, jeudi dernier, le pape François a appelé à une prise de mesures immédiate pour enrayer le réchauffement climatique et protéger l'environnement.
Dans ce contexte de mondialisation, nous sommes confrontés à des décisions qui ne doivent pas être ignorées, soit l'amélioration, soit la destruction de l'environnement.
Le pape François est allé plus loin et demande à ce que le bien public dépasse les intérêts individuels.
In a few days' time,
in Paris,
an important meeting on climate change will begin.
Un rendez-vous important se tient à Paris pour le climat. Ce serait triste et même catastrophique que les intérêts individuels prédominent sur le bien commun.
Au siège des Nations Unies à Nairobi, le pape a appelé à une prise de mesures contre le braconnage, l'exploitation illégale de ressources minières en Afrique pour un nouveau système énergétique réduisant au maximum la consommation d'énergie fossile et de reconsidérer l'actuel modèle de développement. La conférence de Paris, qui a commencé lundi, espère parvenir pour la première fois en 20 ans de négociations au sein de l'ONU à un accord universel et liant les pays sur les climats.
Selon Barack Obama, locataire à la Maison-Blanche, le changement climatique relève d'un impératif économique et sécuritaire auquel il faut agir aujourd'hui.
If we let the world keep warming as fast as it is,
si nous laissons le monde maintenir le réchauffement aussi rapide qu'il est et la montée des eaux aussi vite qu'elles sont et la dégradation de plus en plus inattendue des conditions météorologiques, alors nous aurions à consacrer de plus en plus de ressources économiques et militaires qui ne vont pas offrir des opportunités pour nos peuples, mais plutôt qui seront limitées à maîtriser les différentes conséquences d'une planète en mutation.
Les impacts du réchauffement se font toujours plus forts. Au Sahel, aux Philippines, en Australie, un groupe de 43 pays les plus vulnérables ont demandé un accord qui limite le réchauffement à 1,5 degré Celsius au lieu de 2 degrés Celsius dont Paris s'est fixé comme objectif. Le président du Niger, Mamadou Issoufou, l'a souligné.
Dans mon pays, les effets du changement climatique se traduisent non seulement par l'augmentation des températures extrêmes, mais aussi, dans la même saison, par des périodes de sécheresse suivies de périodes d'inondation, provoquant dans les deux cas des pertes et dommages considérables et mettant à mal la résilience des populations. Je peux aussi parler du lac Tchad qui se meurt et du fleuve Niger qui s'ensable. Le Niger et les pays du Sahel attendent par conséquent des pays partenaires développés et émergents un signal fort sur leurs engagements.
Les États comprennent les dangers, mais aussi voient le chemin qui s'ouvre vers les énergies renouvelables, une agriculture durable et les moyens de créer des millions d'emplois avec moins d'émissions de CO2. La France, par la voix de son président, François Hollande, a promis une aide de 2 milliards d'euros à l'Afrique.
Je vous annonce aujourd'hui que la France y consacrera 6 milliards d'euros entre 2016 et 2020. La France pourra investir, et l'Agence française de développement ici représentée en sera le levier, 2 milliards d'euros en faveur des énergies renouvelables sur le continent, soit l'équivalent de 20% de ce que vous préparez.
L'accord escompté à Paris sera le premier pacte universel pour limiter les gaz à effet de serre, mais une nouvelle stratégie s'impose, l'expérience de Copenhague à l'esprit. Abdul Salam Bello.
On peut être optimiste sur l'évolution des négociations en ce moment à la COP21 en comparaison à Copenhague, au moins pour 2 raisons. Premièrement, à Copenhague, comme vous l'avez pu le constater, l'atmosphère, le cadre de discussion était beaucoup plus tendu qu'il n'est aujourd'hui à Paris. On sent qu'à Paris, quand même, il y a beaucoup de bonne volonté pour arriver à un accord, même si encore il y a des discussions qui sont en cours. Ensuite, on a vu l'organisation, même les organisateurs de la COP21, être très impliqués en amont de cette conférence, en sensibilisant les grands pays, les États-Unis, la Chine notamment, sur l'importance d'arriver à un accord autour de cette COP21. Donc, je pense qu'on peut être relativement, je dirais, optimiste, mais attendons de voir les conclusions.
Il y a l'Afrique qui est le continent le plus affecté par le réchauffement climatique, mais en même temps, c'est le continent qui ne pollue pas comme les autres. Quels sont les défis, selon vous?
Vous avez raison de mentionner la part du continent sur les émissions de gaz à effet de serre. L'Afrique est responsable d'environ 2,3% des émissions mondiales de CO2. Et si on compare avec le reste du monde, les États-Unis représentent 16%, la Chine représente 25%, l'Union européenne représente 12%. Donc on voit vraiment les variations entre le continent et les autres régions du monde. Ensuite, les défis, effectivement, et les conséquences et les défis sont nombreux. Les conséquences, on le voit de façon immédiate, ce sont les inondations dans beaucoup de pays. On a vu ça au Burkina récemment. On a vu ça un peu plus tôt dans l'année au Malawi, où il y a eu même plus de 200 morts avec les inondations. On voit ça avec l'accélération de la désertification dans les pays du Sahel, l'érosion des côtes. Mais un cas illustratif, je dirais, sur ces conséquences, c'est véritablement le lac Tchad qui s'est asséché littéralement. Et si on n'y prend pas garde, le lac Tchad va même devenir la mer d'Arabe de l'Afrique. Vous savez, le lac Tchad en 1960, c'était 25 km². C'est un peu moins que la superficie de l'État du Maryland. C'était même considéré comme la troisième réserve d'eau douce au monde. Aujourd'hui, le lac Tchad fait moins de 2500 km². C'est-à-dire une réduction de 90% sur une période de 55 ans à peu près. Donc, et cela a créé aussi beaucoup de pression sur les opportunités dans cette zone, opportunités économiques, opportunités agricoles, opportunités sociales, parce que il y a une baisse des activités maraîchères, agricoles, etc. plus, bien sûr, la pression démographique. Et si vous regardez les conséquences que cela crée, des pressions sur la Terre, donc des conflits entre différents groupes autour de la Tchad, mais aussi des questions liées à l'insécurité qui a la région et même qui s'inscrit dans un agenda même plus global. Je parle dans ce cas de Boko Haram. Donc, il y a des grands défis, effectivement, sur lesquels nous sommes confrontés.
Abdou Salam Bello parle aussi des opportunités qui s'offrent au continent africain.
Oui, effectivement, il y a beaucoup d'opportunités, d'initiatives qui ont été lancées, mais qui sont en train d'être lancées. Bon, l'initiative même française, au-delà des 2 milliards d'euros, il y a 6 milliards d'euros qui sont initiés pour l'électrification de l'Afrique. Et les 2 milliards d'euros s'inscrivent sur la dimension énergie renouvelable. Effectivement, parce que aujourd'hui, le principal défi de l'Afrique, c'est vraiment son électrification et potentiellement son électrification au travers des énergies renouvelables. Et pourquoi on dit ça? C'est que le principal problème africain sur l'électrification, c'est, je vais vous donner quelques chiffres, c'est l'accès à l'électricité, le coût d'accès au kilowattheure et les conséquences économiques et sociales. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui la consommation totale en Afrique, on enlève si on enlève l'Afrique du Sud, la consommation totale de l'Afrique subsaharienne est deux fois plus faible que la consommation d'un pays comme l'Espagne. Or, l'Espagne représente 40 millions d'habitants et l'Afrique plus de 800. En fait, la partie de l'Afrique que je viens de mentionner. Donc, vous voyez les rapports. Vous savez qu'aujourd'hui, les conséquences de ce manque d'accès à l'électricité affecte même tous les secteurs de l'éducation. Dans une dizaine de pays d'Afrique aujourd'hui, plus de 80% des écoles primaires n'ont pas accès à l'électricité. Et si vous regardez dans les domaines économiques, les problèmes d'accès à l'énergie, les pénuries, parce qu'il y a souvent, on oublie les questions de délestage, ça coûte 2 à 4% de la croissance économique des pays. Des pays comme le Ghana ou la Tanzanie aujourd'hui perdent jusqu'à 15% de la valeur de leur vente à cause des pannes d'électricité. Sur les questions de coût, le coût du kilowattheure aux États-Unis aujourd'hui, on paye le kilowattheure autour de 15 cents. Pour les ménages pauvres en Afrique, ce coût s'élève à 10 dollars. Donc entre 15 cents et 10 dollars, vous faites le calcul. Une variation de 80. C'est un produit de 80, une multiplication par 80. C'est-à-dire que l'habitant de Manhattan paye son électricité beaucoup moins cher qu'un habitant dans une zone rurale en Afrique subsaharienne. Donc vous voyez véritablement les défis que la question d'accès à l'électricité pose aujourd'hui sur le continent. Et effectivement, il y a des potentialités, il y a des opportunités. On a parlé de l'hydroélectricité. Vous avez des pays qui sont fortement impliqués dans cela, pays comme le Niger, par exemple. Bon, le Niger est en train de construire un barrage hydroélectrique qui s'appelle Kandaji, un peu au encadrement de Niamey pour 130 MW, qui permettra donc de fournir cette énergie, mais aussi d'aménager des terres agricoles. Vous avez la Guinée qui vient d'inaugurer un barrage hydroélectrique, le barrage de Kalita, pour 240 MW. Ça représenterait même la moitié des besoins énergétiques du pays. Mais un autre exemple aussi dont on ne parle pas assez, c'est un projet sur lequel le Maroc est en train de travailler, qui s'appelle le projet de complexe solaire de New Ouattara. Et ce projet, en fait, vise à construire, ils sont en train de construire la plus grande centrale solaire au monde à terme, qui permettra de fournir de l'électricité à plus d'un million de personnes. Donc, vous voyez que l'Afrique n'est pas en reste, elle prend sa part, mais l'état d'avancement, les progrès ne sont pas suffisants. Et c'est là où se trouve la problématique principale. Parce que si on garde le rythme actuel d'avancement d'électrification en Afrique, la plupart de nos pays d'Afrique, en Afrique subsaharienne, le taux d'électrification de la plupart des pays tourne autour de 10%, 15% pour les pays, on va dire, les mieux dotés. Et si on garde ce rythme d'électrification aujourd'hui, les estimations, si on couple ça avec l'augmentation démographique, nous ne sommes pas prêts d'atteindre l'électrification pour tous avant 2080. Donc, nous ne sommes même pas là pour constater ça. Donc, effectivement, il y a des défis, il y a des opportunités. Maintenant, le but, c'est de trouver et de mobiliser les financements nécessaires pour accélérer ce processus. Bon, je pense que c'est... Je pense avoir dit l'essentiel de ce que... Il y a un élément sur lequel je peux développer un peu plus, c'est le financement et le déficit de financement. L'élément fondamental aujourd'hui, c'est la question du financement. La question du financement, notamment les questions d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique, il faut véritablement qu'on arrive à restructurer et renforcer ces mécanismes. Parce qu'au cours des dernières années, ce que nous avons constaté, les transferts financiers sur le financement de l'action climatique tombent sous deux écueils. Un, le sous-financement, et deux, la fragmentation. On estime que d'ici à 2020, on a besoin d'une dizaine de milliards de dollars par an jusqu'à 2020 pour adapter, pour mettre en œuvre les mesures d'adaptation sur le changement climatique. Or, sur la période 2010-2012, il y a eu seulement 3 milliards de dollars au total qui ont été consacrés au financement précoce sur l'Afrique. Ce qui est vraiment... Ensuite, la fragmentation des mécanismes. On estime aujourd'hui qu'il y a une cinquantaine de fonds climat qui fonctionnent de façon plus ou moins indépendante, sans vraiment de corrélation et d'intégration entre elles. Et ça pour un portefeuille de 25 milliards de dollars. Donc, cela crée aussi une multiplication de ce qu'on appelle en anglais le transaction cost, le coût de transaction, pour un pays pour pouvoir accéder à ces mécanismes de financement. Et cela, je pense, a besoin d'être mieux coordonné, mieux rationalisé.
Tournant résolument le dos à Copenhague, les chefs d'État sont arrivés en force le premier jour, donné lundi à Paris l'impulsion politique aux négociations. L'ancien vice-président américain Al Gore a prédit un succès à Paris. Selon lui, le monde a tiré des leçons de Copenhague. On est à des années-lumière des précédentes négociations, a-t-il estimé. C'est donc la semaine prochaine, le 11, que l'on saura si l'engagement a été concrétisé en acte. Ne vous lassez pas, chères auditrices, auditeurs, Carrefour Science et Santé continue dans quelques instants. Eric Manirakiza de retour avec vous. C'est devenu une habitude, la journée internationale de lutte contre le sida. Tous les 1er décembre, le monde fait le bilan. La lutte, c'est soigner les malades. Mais surtout, Jean-Marie Gouriot nous rappelle que la meilleure prévention contre le sida, c'est encore de ne pas l'attraper. L'ONU SIDA multiplie les efforts pour vaincre le VIH. L'Afrique reste le continent le plus affecté. Malgré cette vulnérabilité, le traitement du VIH-SIDA est désormais plus accessible en Afrique aujourd'hui qu'il ne l'était il y a une décennie. Conséquence, l'espérance de vie a augmenté, mais une nouvelle étude montre que les femmes sont mieux servies que les hommes. N'est-ce pas Jean-Roger Bion?
L'étude réalisée par des chercheurs en Afrique du Sud a porté sur les résultats d'un nouveau type de traitement du VIH-Sida, appelé thérapie antirétrovirale ou ART, vulgarisé en Afrique depuis 2004. Jacob Borg de l'École de santé publique et ses collègues de l'Université de Boston ont analysé les données recueillies dans la province du KwaZulu-Natal en Afrique du Sud entre 2001 et 2011. Il assure que la vulgarisation de ART a transformé la vie des gens de façon spectaculaire. Les taux de mortalité ont diminué dans l'ensemble et les gens vivent plus longtemps.
Cependant, les hommes semblent moins en bénéficier comparativement aux femmes.
Par exemple, en moins d'une dizaine d'années, l'espérance de vie des femmes a augmenté de plus de 13 ans, mais les hommes ont gagné seulement 9 ans d'espérance de vie. Bor explique que plus de la moitié des hommes qui sont morts du VIH-Sida n'ont jamais cherché à se soigner, même si un traitement gratuit était largement disponible. Cela donne à penser, dit-il, que de meilleurs moyens sont nécessaires pour persuader les hommes de se faire dépister et traiter.
Quand un homme va dans une clinique, il arrive qu'il soit assis dans une pièce avec des dizaines de femmes. Il est le seul homme là. Et cela peut être une expérience désagréable. Avoir des cliniques réservées à la gent masculine est une seule idée à laquelle les gens devraient songer.
Une autre approche, note Jacob Bohr, consisterait à utiliser l'autotest avec lequel les hommes peuvent connaître leur statut VIH en privé. Bohr a aussi souligné que le fait de dire que la clinique ne prend pas d'argent ne veut pas dire que le test est vraiment gratuit. Il y a des coûts tels que le transport ou l'éventualité d'une absence au travail qui peuvent également dissuader les hommes de se faire tester et traiter pour le VIH-SIDA.
Au Libéria, la lutte contre le SIDA n'a pas évolué à cause d'Ebola. Les cliniques et les services de santé étaient fermés pendant la crise, de peur que les gens attrapent Ebola. C'était un sérieux retour en arrière dans la lutte contre le sida. Le virus Ebola a tué environ 4 800 personnes au Libéria, mais l'épidémie a aussi fait d'autres victimes. De Monrovia, Prince Collins rapporte les efforts mis en œuvre pour remettre sur la bonne voie les programmes de traitement du VIH. Le récit est donné par John Lyndon.
Il est encore tôt à Monrovia et les malades atteints du VIH se trouvent dans un hôpital local pour recevoir un traitement. Mais certains patients ne sont pas là. Le Programme national de contrôle du VIH au Libéria tente de traiter plus de 2000 cas de personnes séropositives qui étaient prises en charge avant que le virus Ebola ne frappe le Libéria l'année dernière. Le responsable du programme, Sonpon Blama Sie, explique qu'ils ont dû arrêter de faire du porte-à-porte pour promouvoir le traitement contre le sida pour des raisons de sécurité parce que Ebola a eu un pic entre juin et décembre 2014. Le gouvernement avait ordonné d'éviter tout contact pour stopper la transmission du VIH.
À ce moment-là, nous avions un total de 8865 patients. Vous imaginez, nous avons perdu plus de 2000 patients pendant l'épidémie d'Ebola parce que les services médicaux n'étaient pas ouverts. Ce qui se passe, soit ils sont morts, soit ils n'ont pas eu de suivi, soit ils sont allés faire recours aux herboristes pour une raison. On ne pouvait pas trouver les patients.
Des traitements réguliers par des thérapies antirétrovirales peuvent ralentir la propagation du VIH dans le corps. Un patient atteint du sida, qui souhaite rester anonyme, a dit qu'il espérait que les choses rentrent dans l'ordre.
Ce n'était pas facile pendant l'épidémie d'Ebola. Les médicaments n'étaient pas disponibles. J'ai survécu grâce à Dieu. Quelques amis sont morts. Nous n'avions nulle part où aller pour trouver des médicaments.
Atterrissons maintenant dans la capitale des hommes intègres. C'est beau, c'est frais, c'est transparent et un enfant. C'est par lui que nous viennent les plus grandes leçons de la vie, nous apprend Eve Bellisley. Cette histoire se déroule à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. En septembre dernier, le pays a été plongé dans le chaos suite à une tentative de putsch qui a emporté 14 vies humaines et des centaines de blessés. Un des blessés était Safiatou Ouédraogo, une femme enceinte qui a miraculeusement survécu avec son bébé en dépit d'une balle perdue qu'elle a reçue dans l'estomac. Boinzi Mwende, ou Dieu est avant tout, dans la langue des Mossi, est le nom de ce bébé miraculeux. Pagasikura a visité la maman et son bébé.
Pour Safiatou, cela ne fait aucun doute. Sa fille, Boinzi Mwende, est une véritable miraculeuse. Le 18 septembre dernier, en plein coup d'État, elle était enceinte, presque à terme. Et alors qu'elle faisait tranquillement la lessive, elle a reçu une balle perdue dans le ventre.
J'ai entendu la bruit, là, me chonner. Donc, je pensais que c'est les enfants qui s'amusaient. Donc, j'étais quelque chose, ça m'a atteint, quoi. Donc, je me suis levée, quoi, à pied, la plaine, là, comme cela, puis me lever. Donc, je n'ai rien vu tomber. Donc, que j'ai fait comme cela pour regarder, j'ai vu que la blessure, là, est en profond.
C'est là que la balle est rentrée.
Mmh. Elle est arrivée, elle n'était pas en travail. À l'examen, on a vu qu'elle saignait à travers l'orifice d'entrée de la balle. Et comme elle n'était pas en travail, voilà, on a décidé de faire la césarienne pour extraire l'enfant.
Ainsi prend fin votre carrefour science et santé. Eric Manilakiza vous remercie de votre oreille attentive. Ce n'est qu'un au revoir.